Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission Table ronde sur les ondes de la voix de la République islamique d'Iran sur la radio francophone iranienne. Le sommet du G7 s'est déroulé à Biarritz en France. L'Iran aussi était au menu des discussions entre les participants à ce sommet. Il y a eu également ce voyage du ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, en France, et plus précisément à Biarritz. Il a eu en fait des entretiens avec des autorités françaises, le président français Emmanuel Macron, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, et dans le même temps, il y a eu cette information comme quoi les dirigeants du G7 ont convenu de charger Emmanuel Macron de discuter avec l'Iran. Pour vous en parler, nous allons partir tout de suite à Toulouse pour rejoindre un philosophe français spécialiste des questions internationales, M. Pierre Dortiguet. M. Dortiguet, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Monsieur Nerostein, bonjour aussi à tous vos auditeurs. Merci bien.
Monsieur Dortiguet, en première question, quelle évaluation reportez-vous sur ce sommet du G7 en France, s'il vous plaît?
Eh bien, on ne peut pas dire que c'est une appréciation optimiste ou pessimiste, parce qu'il faut attendre les résultats, mais la tenue de cette réunion démontre que plutôt que les tentatives de négociation venant des Américains eux-mêmes et des Européens, n'ont pas cessé depuis quelque temps. Et que nous avons été, bien sûr, attirés par et troublés par ces agressions, disons, l'agression des pétroliers iraniens, comme vous savez, à Gibraltar. Il y a eu ensuite la décision du tribunal de Gibraltar de laisser repartir le pétrolier, etc. Et nous pensons que derrière ces incidents, qui bien sûr ne peuvent satisfaire que les milieux conservateurs, les milieux, disons, sionistes fanatiques, il y a une recherche de mise au point, une recherche, disons, je ne dis pas de paix, mais de régularisation des rapports entre les grandes puissances et l'Iran, car ceci est nécessaire, et c'est un premier point, à l'équilibre général mondial, à l'équilibre économique, surtout à la veille d'un très grand ébranlement qu'on annonce financier à partir de 1921, l'an prochain. Monsieur Trump a dit, il n'a pas laissé entendre, mais il a dit clairement que cette négociation de monsieur Macron avec M. Zarif était faite avec l'assentiment américain. En réalité, il s'agit d'une négociation commune, négociation des Européens et des Américains. Et donc, ceci est quand même une défaite des agitateurs, une défaite de ceux qui, depuis les premiers incidents, vous savez, à l'époque de la visite récente de M. Shinzo Abe et du ministre des Affaires étrangères allemand à Téhéran, ont agité, ont troublé, disons, les relations. On comprend qu'il s'agit là de tentatives, disons, de freiner un mouvement qui est inévitable, qui est nécessaire, qui est exigé par l'équilibre, je reprends la formule, l'équilibre de la machine économique. Toutes les tentatives, par exemple, de former une sorte de police maritime à laquelle on avait invité les Français à venir, que les Allemands avaient refusé, tout ceci est tombé à l'eau, comme on dit. Et je crois que ces discussions à Biarritz sont sérieuses. Elles le sont d'autant plus qu'il s'agit d'une grande réunion financière. Et que, permettez-moi encore d'insister sur ce point, cette réunion financière n'est pas sous des auspices très favorables, puisque ces bruits de crise semblent se préciser et on annonce même des dates fatidiques, vous voyez. Je crois que c'est une réunion, de préparation à un ébranlement qui, bien sûr, a toujours ses limites, mais pourra inquiéter, disons, le, tant les consommateurs que les producteurs. Et donc l'Iran a un poids. Il a un poids de présence économique, de présence politique aussi, puisque cette région est toujours troublée par cette guerre imposée à la Syrie. Cette invitation, cette préparation, puisque ce n'est pas, disons, une visite surprise, c'est une visite préparée, nous rend, disons, confiants dans le triomphe de la raison sur, disons, des aventures politiques, des aventures militaires, ou, disons, si, sans aller jusque-là, au moins, disons, une sorte de blocus de l'Iran pourrait, bien sûr, économiquement être affaibli par cette réunion du G7, et surtout aussi cette guerre psychologique qui est quand même néfaste, qui est néfaste à tout le monde, et disons nous met toujours à la merci, disons, d'un incident. Mais je crois que les grandes puissances financières contrôlent aujourd'hui veulent contrôler la situation, car elles sont, je le redis, elles-mêmes sur un plancher instable, disons, et cette réunion sera en tout cas favorable, elle ne peut qu'être favorable à l'Iran.
Et comment expliquez-vous cette initiative française de vouloir en fait jouer son rôle dans ce domaine, M. Dortillet ?
Eh bien, il s'agit peut-être d'une initiative, il y a un côté objectif, mais un côté subjectif. L'initiative objective, si je puis dire, concrète, réaliste, vient, comme on nous le dit, bien sûr, d'une sorte de charge qui a été confiée à la France, car on sait, disons, la tradition française d'être, comme depuis le général de Gaulle, l'autre, d'être, M. Chirac, d'être, disons, un intermédiaire, disons, entre des parties en conflit. Ça, c'est vrai, c'était la politique de M. Villepin et autres. Bon, et bien sûr que ceci a changé, il y a quand même des transformations qui ne sont pas toujours très bonnes, mais disons que la forme subsiste. Mais M. Macron a été choisi, peut-être aussi, et là ce serait plus malheureux, c'est plus malheureux, pour son caractère ambigu. C'est-à-dire qu'il peut donner satisfaction à chacun, comme il l'a fait depuis le début de la crise, c'est-à-dire en offrant, si j'ai pu dire, une face, la face d'un objet sans que l'on ait, disons, la possibilité d'en faire le tour. Alors, je m'explique. Monsieur Macron, comme l'ensemble des Européens, vous savez, Madame Mogherini, c'est-à-dire Mogherini, l'ensemble des Européens a condamné l'initiative américaine, disons, de remettre en cause le traité de Vienne. Mais déjà, M. Macron avait, lourdement insisté sur la nécessité pour l'Iran, disons, de modifier sa politique militaire, par exemple, sur les batteries antiaériennes, etc., que cela pouvait être considéré comme une agression, etc., contre d'autres peuples, alors qu'on sait que c'est tout à fait l'inverse. Il y avait donc cette politique ambiguë, vous voyez, qui même s'est redressé, peut-être vu le poids de l'Allemagne, quand M. Macron a refusé ce qu'il avait pourtant annoncé, c'est-à-dire de constituer avec l'Angleterre une sorte d'équipe commune de surveillance du Trois d'Ormuz. Je crois que M. Macron, disons, est fier de dire, bien sûr, ceci le flatte, dans une position politique plus ou moins contestée. Je dis plus ou moins car elle ne l'est pas véritablement. Il n'y a pas d'opposition réellement politique. Il y a une mauvaise humeur du pays, mais il n'y a pas d'opposition réellement politique. Disons qu'il est fier, bien sûr, d'afficher ce rôle, mais j'insiste que ce rôle, M. Trump l'a dit, est un rôle, en réalité, qui n'est pas une initiative qu'on lui demande. Et il est le représentant, en fait, de forces qui sont plus puissantes que lui et dont il est le traducteur, l'interprète. En Europe continentale, la France, je dis Europe continentale, en dehors de l'Angleterre, La France, bien sûr, a plus de liberté d'action que l'Allemagne. L'Allemagne est quand même considérée politiquement toujours comme un État, je ne dis pas mineur, mais enfin, disons qu'il porte toujours le poids de la guerre, tandis que la France, elle, disons, a plus de brillance, si vous voulez. Je ne crois pas que M. Macron ait une initiative personnelle. Je crois que ce qui lui est dit, et ce n'est pas péjoratif, est concerté, c'est-à-dire est le fruit d'une décision mûre, voyez-vous. Et je pense que l'ensemble des Européens, en particulier cette Allemagne qui revient toujours, qui a un poids quand même énorme sur le plan financier, sur le plan économique, elle est tout à fait partisan avec la Russie d'un abaissement des tensions. Et je crois que M. Trump lui-même, s'il a semblé, disons, être agressif contre l'Iran, ce qu'il a été en partie, n'a pas intérêt pour faire triompher son programme électoral, à aller dans la voie des néoconservateurs, dans la voie des Bolton, même de Mike Pompeo, etc. Et je crois que cette visite, justement, permettra de dévoiler peut-être ce qu'est le fond de la politique de M. Trump, vous voyez. Et je pense que M. Macron lui-même, je dis bien, est un porte-parole. Il est toujours ambigu, c'est vrai, mais il est obligé d'obéir à un rapport de force européen et extra-européen, mais aussi européen.
Mais s'agissant de ce rapport de force, le président américain sait très bien que voilà, l'Iran ne laissera pas sans réponse, sans réponse une quelconque attaque américaine ou autre.
Oui, oui. Ceci, voyez, dernièrement, vous avez fait l'honneur de m'interroger par un de vos collègues sur des incidents en Irak, par exemple, où sont cantonnés, je crois, 5 000 Américains. Vous avez des avions de la coalition qui ont bombardé, disons, des secteurs de la résistance irakienne. Là, il s'agit d'initiatives, disons, qui sont presque des provocations à l'intérieur, à l'égard des États-Unis, de la politique de Trump. On veut, disons, Trump a un programme, disons, rigoureusement économique. C'est ce qu'il a fait élire, et ce n'est pas du tout une démagogie. Il y a un problème économique à l'intérieur des États-Unis, un problème de travail, un problème de chômage, et qui a pris une ampleur telle, qui a pris l'ampleur, qui a assuré son élection. Il a contre lui des opposants, bien sûr, mais ses opposants, qui sont des démocrates, sont partisans et étaient partisans, ne l'oublions pas, dans la campagne électorale, avec Mme Clinton, d'une politique très agressive contre l'Iran et contre la Syrie. Et donc, la politique de M. Johnson aujourd'hui se déclare, je l'ai lu il y a quelques jours, comme étant la politique d'un pays, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, qui est maintenant tournée vers l'extérieur, qui est un pays, presque un pays, disons, dont on peut dire l'influence n'est pas tant son propre pays que le monde lui-même. Il y a, je crois, une certaine ambition anglaise de ressourcer une sorte d'impérialisme. Bien sûr, ceci n'est pas favorable à l'Iran. Mais l'Iran, disons, a su poser des limites aux tentatives d'agression qui ont été lancées ou mûries contre lui, voyez-vous. Et je crois que cette attitude ferme de l'Iran, je ne dis pas ferme dans le sens d'agression, non, ou de rapport de force, mais cette maîtrise qu'a eu l'Iran dans les crises précédentes ont favorisé, tant en Europe qu'aux États-Unis, bien sûr, une volonté, disons, d'affermir les relations avec l'Iran. Ce n'est pas du tout par optimisme que je le dis. S'il y a des gens comme John Bolton qui sont très agressifs, c'est qu'ils savent qu'à l'intérieur même des États-Unis et de l'Europe, il y a des forces qui les condamnent, voyez-vous, parce que ces gens-là n'obéissent qu'à des intérêts qui ne sont pas des intérêts proprement américains ou proprement européens. C'est des intérêts israéliens, des intérêts de certaines finances, bon, ça, chacun le sait. Je crois que cette initiative de Biarritz, quand même, n'est pas à, doit être considéré avec prudence, que la politique de M. Macron, vous me demandez, me semble être une politique, disons, influençable. Il fait, je ne dis pas qu'il fait ce qu'on lui dit, ça serait quelque chose, mais disons qu'il est là un porte-parole, beaucoup plus, à mon avis, qu'un homme d'initiative. Car il n'a pas les moyens économiques, les moyens financiers de s'imposer. Ça, c'est ainsi qu'il faut prendre la France. Je crois que M. Macron reflète cette orientation européenne qui trouve des échos à l'intérieur des États-Unis et qui ne veut pas s'engager, disons, dans la politique ancienne, mettons, la politique trop agressive ou très agressive. Je crois que de ce point de vue, cette conférence organisée par ces secteurs financiers est une occasion pour l'Iran, je ne dis pas de... non pas de progresser, mais disons de s'assurer que la politique qu'il a tenue jusqu'à présent est une politique bonne, c'est-à-dire celle de ne pas céder à des provocations, mais en même temps de ne pas se taire devant ces provocations. Voyez, voilà, je crois que c'est tout ce que nous pouvons dire, disons, de ce tableau, politique. En tout cas, pour nous, cela, pour tous les amis de l'Iran et tous les amis de, enfin, tous les gens qui sont réalistes, disons. Cette conférence n'a rien d'hypocrite. Elle est une conférence placée sous le signe d'une nécessité économique et financière pour faire face à la crise à venir, et que dans cet état de crise, évidemment, les grandes puissances, les forces vraiment actives en Europe et aux États-Unis ne peuvent pas se permettre un conflit.
Monsieur Dertillier, une dernière question. Vous venez en fait de parler des intérêts israéliens, en disant que voilà, même à l'intérieur des États-Unis, il y a des voix qui de proteste, qui sont contre en fait cette option souhaitée, voulue par des néoconservateurs très particulièrement, John Bolton et autres. Comment voit-il, d'après vous, le régime israélien et ces récents événements, ce qui se passe actuellement entre l'Iran et la France, ce déplacement de Zarif à Biarritz, ces entretiens entre l'Iran et le G7?
Eh bien, ces milieux-là le voient évidemment ils le voient d'une manière enragée. Et nous craignons justement que pour la France, par exemple, ce ne soit, ou l'Europe, et surtout en France, ce ne soit l'occasion, disons, d'activer des mouvements de subversion et autres qui, dans le trouble, ne permettraient pas à l'Europe, disons, de remplir son rôle. Car, disons, ces gens-là, c'est M. Attali, par exemple, chez nous, qui les représente, qui a même été, disons, très ambigu. Il a dit que M. Macron ne terminerait pas son mandat. Vous savez, il avait dit son premier mandat. Ils ont des perspectives, disons, d'agitation. N'employons pas le terme de révolution, d'agitation. Ils peuvent créer des agitations, mais ce qui met un frein à celle-ci, c'est justement la conjonction des intérêts financiers devant justement une crise très profonde dont les racines sont anciennes et qui menace justement de faire qui menace de changer le niveau de vie des gens, etc. Alors vous avez deux réactions. Vous avez ceux qui profitent, c'est le cas de M. Attali, je me permets de le nommer, qui profitent de ce chaos financier et économique pour pouvoir, disons, imaginer une autre forme de gouvernement qui soit beaucoup plus, nous appelons ça une dictature soft, une dictature adoucie, voyez-vous, avec un abaissement des classes moyennes, une diminution de la propriété, etc. Bien. Et une immigration même, disons, qui est aveugle. L'immigration n'est pas mauvaise en soi, mais là, elle est aveugle, voyez-vous. Ainsi de suite. Il y a ceux qui connaissent très très bien ces gens-là et veulent, c'est-à-dire les milieux financiers, des milieux économiques, disons, milieux industriels, qui sont réalistes et qui veulent, disons, se maintenir dans des limites raisonnables. Mais malheureusement, ces gens-là n'ont pas pour eux la presse, j'entends le parti de la raison, n'a pas pour lui la presse, n'a pas pour lui les médias. La lutte, donc, est une lutte qui n'est jamais terminée, voyez-vous. Nous craignons nous-mêmes en France des événements très lourds de conséquences. Si cette crise financière qu'on nous annonce éclate, On a même donné une date. Enfin, c'est quand même extraordinaire de penser qu'on vous annonce une date comme la date de la prochaine lune, voyez-vous. On vous dit, à partir de telle date, vous aurez une crise. Et je crois que ces milieux-là, qui sont raisonnables, réalistes, veulent régler définitivement les relations, le problème des relations avec l'Iran, voyez-vous, tel qu'il avait été marqué à la conférence de Vienne, au traité de Vienne. Ils veulent véritablement le régler. Je pense même que si M. Trump, j'ose le dire, enfin, c'est une appréciation tout à fait personnelle, a fait ce qu'il a fait contre l'Iran, c'est-à-dire en voulant sortir de ce traité, je crois qu'il l'a fait justement sous pression directe, justement, de ces forces qui, situées à l'intérieur des États, veulent, disons, vivre du trouble. Et naturellement, l'entité sioniste et leur drapeau, disons, et leur point d'appui. Il ne faut jamais sous-estimer cela quand on juge des pays européens. Disons que nos propres dirigeants, sont pris entre deux feux, voyez-vous. Et ceci, nous le savons depuis le général de Gaulle, nous le savons depuis toujours. Et disons, dans ce combat qui est un combat, dans cette lutte qui est permanente, qui est continue, disons, nous pensons que ces événements à Biarritz sont plutôt à considérer du bon côté, voyez-vous. Nous les voyons, disons, comme une manière de freiner, disons le mot, que sont ces gens comme Bolton, on les appelle des néoconservateurs, ce sont des militants trotskistes qui n'ont qu'un slogan, la révolution permanente. Et c'est eux, ils ont de l'argent, oui, mais leur cœur est toujours un cœur révolutionnaire, c'est-à-dire une sorte de, je me permets de dire, enfin, révolutionnaire, disons, voilà. Ce sont des révolutionnaires qui veulent détruire des sociétés et vivre, disons, sur une population appauvrie, voyez-vous, en faisant travailler, disons, des pays du tiers-monde pour eux, voilà. C'est ce qu'ils appellent l'ordre mondial. Et bien sûr, des gens comme M. Trump, à notre avis, ne veulent pas entrer dans ce jeu. Et je pense qu'il y a des forces autour de M. Macron, surtout en Allemagne, qui sont décidément opposées à cette aventure, à ce risque.
Merci beaucoup, M. Dorsiguier, d'avoir répondu à mes questions. C'est très gentil de votre part.
Je vous en prie, monsieur, avec grand plaisir.
Je vous en prie.
Merci, monsieur Novotny.
Au revoir.
Au revoir.
C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour une autre émission et pour aborder un autre sujet d'actualité internationale.